ses yeux sans rancune. Plus je bois, plus je...
Bonjour, aujourd'hui une émission spéciale sur le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers avec Alain Monger, son président, qui reviendra sur l'actualité du pôle territorial et des chantiers à venir. Ensuite, on aura Isabelle Delbure, responsable du service Espace Info Entreprendre du Cœur Entre-deux-Mers, et qui nous présentera des activités d'accompagnement à la création de tiers-lieux, notamment deux, une sur la communauté rurale de l'Entre-deux-Mers et une autre, c'est ma causerie, la manivelle au vent. Ensuite, on aura Isabelle Henry, qui est animatrice du tiers-lieu, ma causerie d'Albré, implantée sur les communes Comont-Rimont et Castelmoron d'Albré, Saint-Martin-du-Puy. Et au niveau poste musical, nous aurons Renaud Manhattan Kaboul, Vianney la fille du Sud et les frangines demain dès l'aube. Alors donc aujourd'hui, le pôle territorial Entre-deux-Mers avec Alain Monger. Bonjour Alain. Alors, le pôle territorial Entre-deux-Mers, c'est quoi au juste?
Alors, quelques données de cadrage par rapport au pôle d'équilibre territorial rural. Hein,
oui.
Au cœur Entre-deux-Mers, nous représentons 5 communautés de communes. Donc sur ce grand territoire qui part de la métropole bordelaise jusqu'aux portes du Lot-et-Garonne, hein, la communauté de la des rives de la Laurence, c'est le secteur de Saint-Loubès au nord, les coteaux bordelais, la communauté de communes des portes de l'Entre-deux-Mers, le secteur de la Traîne, Langoiran, la communauté de communes du Créonnet et puis la grande communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Donc 5 communautés de communes, ça représente 90 communes et un bassin de population de plus de 107 000 habitants.
107 000 habitants, d'accord. Donc, ce qui est relativement important, donc ce pays a commencé à œuvrer sur plusieurs thématiques, je crois.
Oui, c'est une structure, on va dire, un syndicat qui a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années. Et au départ, pour essayer de parler, de réfléchir, de structurer le développement touristique, et puis on se rend compte que 20 ans plus tard, les secteurs d'intervention se sont, et c'est assez logique, développés. Le pôle territorial, en fait, est très présent en matière d'accompagnement des acteurs économiques du territoire, dans le cadre d'un espace info entreprendre, hein, c'est-à-dire accompagner les porteurs de projets dans leurs activités, mais également les acteurs économiques en activité. Donc ça, c'est un service mutualisé pour le compte des 5 communautés de communes, avec une action d'ailleurs très importante depuis 2 ans autour du numérique, qui est un enjeu pour notre territoire. On connaît bien le développement et l'arrivée de la fibre, mais on se rend compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement des entreprises. Après, on a une deuxième thématique qui est très, très prégnante pour notre pôle territorial, c'est les enjeux de souveraineté alimentaire autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et nous portons depuis 2018 ce qu'on appelle un programme alimentaire de territoire, des enjeux importants qui touchent aussi bien au maintien des exploitations agricoles et qui va jusqu'à la restauration collective. Donc c'est un enjeu fort pour les élus du territoire et pour le pôle territorial, mais également pour l'ensemble des acteurs agricoles. Nous sommes également très présents en matière de ce qu'on appelle le portage des contractualisations, c'est-à-dire essayer de mobiliser des financements, que ce soit de l'État, de la région, de l'Europe, pour l'ensemble des forces vives du territoire. Il me plaît toujours à rappeler que nous, par notre action, nous arrivons pour 1 euro investi sur le territoire à mobiliser 5 euros. Voilà, donc c'est quand même des retours économiques très importants pour l'ensemble des acteurs. Mmh. Voilà, et puis nous animons également un projet alimentaire. Nous animons un projet de territoire qui s'appelle Ambition 2030.
Oui.
Qui doit donner des perspectives en fait de développement et de structuration du cœur Entre-deux-Mers. Voilà. Et puis nous avons un service annexe aussi autour des enjeux du foncier et puis de l'urbanisme. Hein. On pilote un service droit des sols. On travaille pour 48 communes. Voilà. Donc on a une palette d'activités très très importante pour l'ensemble des communes et communautés de communes de notre territoire.
Tout à fait. Alors je vois que déjà on a parlé de souveraineté alimentaire, quelque chose d'important puisque je crois que la ville de Bordeaux a, d'après ce que vous avez fait comme étude, est ressorti qu'ils avaient au niveau alimentation qu'une journée d'avance, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, bon, après, c'est toujours des calculs théoriques. Nous avons calculé que nous avons sur notre territoire 23 jours de délai. si le territoire devait nourrir la population. Donc c'est très faible et donc c'est un enjeu. Donc on ne parle plus d'autonomie alimentaire qui serait peut-être illusoire, mais plutôt de souveraineté alimentaire. Mais on se rend compte que c'est un enjeu important d'essayer de renforcer en fait l'approvisionnement en produits locaux, essayer de travailler notamment sur des produits de qualité, ce qui est le cas au niveau de notre territoire. Mais c'est vrai que notre action en matière de programme alimentaire de territoire ne s'arrête pas là. On a un gros travail autour du foncier agricole, le devenir des terres agricoles dans un contexte, je dirais, de crise viticole très très importante actuellement au niveau du territoire et d'une très forte déprise agricole et viticole.
Voilà.
Donc c'est un enjeu qui questionne et qui soucie énormément l'ensemble des élus du territoire. On est également très présent dans l'accompagnement des lieux de restauration publique, donc l'ensemble des cantines scolaires de notre territoire, pour essayer de renforcer ce lien en matière de produits locaux et de proximité. Donc c'est une thématique ô combien stratégique au regard de l'agriculture et de la viticulture, qui est une filière, qui est la filière principale pour notre territoire, notamment en termes de retour économique d'emploi, malgré un secteur qui est très très en souffrance actuellement, notamment le secteur viticole.
Oui, qui dure déjà depuis plusieurs années, mais là on est, je peux dire qu'on est au fond du gouffre. Alors, de ce côté-là, vous avez surtout, par ailleurs, travaillé sur, je crois, on a eu l'occasion de faire une émission là-dessus, avec des jardins partagés.
Exactement. On se rend compte qu'on a une dynamique de jardins collectifs et de jardins partagés, c'est-à-dire des, bien souvent des initiatives d'acteurs, de citoyens, d'associations, de collectifs qui souhaitent remettre au cœur des préoccupations le potagerinage, comme on se plaît à le dire. Alors, ce sont des initiatives intéressante, on va dire, entre guillemets, de retour à la terre, mais qui a vraiment du sens. Actuellement, on a une douzaine, en fait, de jardins partagés sur le territoire. Donc, on a un gros travail, nous, d'animation et de coordination. Depuis 2 ans, on organise une opération qui s'appelle Tous au jardin, qui est là aussi pour faire découvrir ces initiatives individuelles et collectives. Bien souvent, c'est structuré sous format associatif. Et c'est des thématiques qui, notamment, ont un aspect important en matière de lien social. Voilà, parce que ça permet également aux personnes d'une commune ou d'une intercommunalité de se retrouver autour de la production de légumes, de plantes aromatiques, bien sûr pour des soucis de production et d'achat de produits, mais également d'animation et de lien social. Et ça, c'est vraiment un vecteur important que nous accompagnons depuis maintenant 2 ans, très fortement au niveau du pôle.
Je crois que vous avez travaillé l'année dernière, et je crois que ça va être reconduit, avec une expérimentation auprès de familles qui doivent se nourrir avec des produits locaux, en comparaison par rapport à une grande surface.
Exactement. On a été un peu précurseur. On a porté, en fait, l'an dernier, un défi foyer à alimentation,
c'est ça,
je dirais, positive. L'objectif, c'était de rassembler, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos 5 intercommunalités, une 50aine de familles du territoire. L'objectif, c'était de pouvoir les amener à se questionner sur leur modalité d'approvisionnement pour essayer d'évaluer la façon dont ils consomment et ce qu'ils consomment, et essayer de les amener à consommer plus de produits bio et de produits locaux. C'était ça l'enjeu de ce défi, avec pendant 6 mois des visites d'exploitation, des ateliers de nutrition, des ateliers de cuisine, et avec des relevés d'achat pour permettre en fin de programme et par rapport au début de programme de voir si l'ensemble des actions qu'on a portées ont été pertinentes. Devant ce succès de ce défi foyer, nous avons décidé de reconduire cette opération et de le segmenter, de le territorialiser encore plus. Et pour 2023, nous allons mener un défi foyer alimentaire avec sur le territoire de 2 communautés de communes des Rives de la Laurence, secteur de Saint-Loubès et des coteaux bordelais. Donc là, on est en phase de recrutement des familles volontaires. Donc, on attend une quarantaine de familles. Et puis, l'intérêt, c'est de pouvoir, chaque année, faire tourner cette manifestation qui a beaucoup de sens. Et donc, en 2024, aller sur une autre partie du territoire et 2025 également. Voilà. Donc, renforcer les notions de coopération et de proximité, notamment en direction des familles et des habitants du territoire. C'est aussi une des vocations du pôle territorial.
Alors, on parlait tout à l'heure de crise viticole, on est quand même sur la diversification, parce que si on parle d'alimentaire, on ne prend pas, on ne boit pas que du vin. Donc, ce qui veut dire, c'est que de ce côté-là, vous avez recensé, puisqu'on a parlé des cantines scolaires aussi, c'est de voir un peu tous les producteurs qui peuvent alimenter à la fois cette restauration collective, mais pas que.
Oui, il y a un gros travail qui a été fait depuis plusieurs années, hein, d'identification et de connaissance des acteurs locaux. On sait qu'on est sur un territoire qui fédère à peu près plus de 1000 exploitations agricoles, mais une grande majorité à dominante viticole. La dynamique autour des producteurs locaux hors viticulture, c'est à peu près une centaine de producteurs sur notre territoire, avec des installations, des reprises, des difficultés également que ces acteurs rencontrent en matière de logistique, d'approvisionnement d'un certain nombre de points de collecte. Mais c'est important également de pouvoir s'appuyer en fait sur ces acteurs-là. Donc derrière, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir diversifier et d'amener un certain nombre peut-être d'acteurs, s'ils le souhaitent et si le contexte économique le permet, à diversifier leurs activités sur des productions notamment alimentaires. On a un vrai enjeu, hein, sur le devenir, nous, du foncier sur le territoire, bien sûr, notamment les enjeux de déprise viticole, le devenir en fait de parcelles qui de même perdraient la vocation viticole, et toutes les interrogations que se portent légitimement et que portent légitimement les propriétaires sur le devenir de leur terre. Donc c'est vrai que nous défendons, nous, dans la mesure du possible, une valorisation alimentaire de ce potentiel au regard des enjeux, hein, que nous relevons, mais on sait également qu'il y a un défi autour de l'énergie et qu'il y a des choix, des orientations claires qui doivent être définies pour le devenir de ce foncier au niveau du territoire. On a également des enjeux, parce qu'on discute avec la métropole avec laquelle on va signer un contrat de coopération début 2023, notamment les enjeux de compensation carbone ou compensation environnementale. Il faut arriver à des points de convergence et des points d'équilibre entre ces territoires, mais nous défendons, nous, avec l'ensemble des communautés de communes et des acteurs publics, le fait qu'on ait un territoire actif, dynamique, avec une activité économique présente et prégnante pour le devenir de notre territoire. Et ça, on y tient beaucoup. Et l'ensemble des dynamiques que nous accompagnons, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient associatives, c'est aussi pour maintenir de la vie et du développement aussi bien économique que social sur notre territoire. Voilà, donc c'est un enjeu important et c'est la trajectoire que l'on souhaite défendre au niveau du pôle territorial.
C'est-à-dire que dans ces cas-là, le pôle territorial serait un des acteurs majeurs vis-à-vis de la métropole.
Oui, c'est en fait des orientations que nous portons dans le cadre de notre projet de territoire Ambition 2030. Nous avions jeudi dernier la conférence des maires, hein, qui a rassemblé plus de 80 élus de notre territoire, de notre vaste territoire, où nous avons fait en fait un point sur notre projet de territoire et les grandes orientations. Donc c'est aussi ce que nous demande le législateur au niveau des pôles des PETR, des pôles d'équilibre territoriaux, d'avoir en fait des visions un peu stratégiques, alors qu'ils sont pas toujours bien compris, et c'est à nous de l'expliquer pour savoir comment un territoire peut se projeter dans un horizon 2030. Voilà. Malheureusement, ce sont des orientations que l'on doit forcément réévaluer. C'est vrai que la crise énergétique que nous connaissons est en train de chambouler beaucoup d'équilibres économiques que nous sommes en train de traverser, les problématiques de souveraineté alimentaire également, mais il faut que dans les projets de territoire et les projets de développement que nous portons, il faut en tenir compte pour pouvoir adapter notre accompagnement aux réalités et aux enjeux actuels du territoire. Voilà, donc c'est aussi ça une dévocation d'un PETR, en lien bien sûr avec l'ensemble de ces 5 communautés de communes et de ces communes partenaires.
Voilà, on va pas te faire une petite pause musicale avec Renaud Manhattan Kaboul.
petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel cible est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Mon rêve américain,
moi plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans,
cela où qui jamais ni le courant.
Suis redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les gardes civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
Inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Voilà, donc je suis avec Alain Mongier, qui est président du pôle territorial Cœur entre deux mers, qui représente, on a dit, quand même 5 communautés des communes, 90 communes, 107 000 habitants, donc une zone relativement importante. On abordait justement l'aspect stratégique pour l'ambition 2030. La problématique du foncier est une problématique importante, je crois.
Oui, 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 c'est le quel visage aura notre territoire dans 5 ans, dans 10 ans, sachant que nous avons un territoire avec des problématiques diverses, c'est-à-dire que c'est vrai que le développement et l'aménagement du territoire, on n'est pas, et c'est assez logique vu de la même façon, quand on se situe sur Sauveterre, sur Taïkava, sur Blasimont, que quand on se situe à Saint-Loubès, à Tresse ou à La Traîne.
Oui.
Et puis quand on parle du Créonnais, c'est des modèles aussi différents. Voilà, donc le développement territorial et donc qui s'appuie sur l'aménagement foncier d'un territoire est un enjeu important.
Oui.
Sachant que nous avons un certain nombre de contingents à prendre en compte et notamment des enjeux de zéro artificialisation des sols, donc les aspects réglementaires que vont devoir relever et intégrer l'ensemble des communes et communautés de communes dans leurs documents d'urbanisme.
Mmh.
Et c'est là où il faut arriver à veiller à un équilibre entre une attractivité d'un territoire. Notre territoire du cœur entre deux mers attire entre 1000 et 1500 nouveaux arrivants chaque année.
Mmh.
dans un département, la Gironde, qui en accueille 20 000. Voilà, donc on voit bien qu'on a des enjeux, notamment en périphérie de la métropole, importants, avec un poids sur le foncier disponible et des tensions de prix importantes.
Absolument.
Mais nous devons trouver un équilibre entre également un développement économique, parce que ce sont des territoires qui veulent vivre également et qui veulent défendre du développement économique, pour essayer également d'éviter ce phénomène de mobilité et de liaison pendulaire entre un territoire et la ville et la métropole centre.
Les cités dortoirs, quoi.
Et il ne faut pas oublier les enjeux environnementaux, qui sont le troisième pilier de la réflexion, parce que on est un territoire certes attractif, mais aussi reconnu par sa qualité de vie, sa qualité de paysage. Donc, les enjeux de développement pour un territoire et des enjeux de développement que nous portons au niveau du pôle territorial doivent également prendre en compte ces dimensions.
Tout à fait. Et là, de ce côté-là, il y a des communes qui ont mis en place une démarche vis-à-vis du foncier.
Ouais, on a un gros travail, notamment avec, je dirais, la région et les acteurs publics, notamment dans le développement en fait des orientations en matière d'aménagement. Il y a beaucoup de sujets qui sont de compétences des CDC. Je prends l'exemple notamment de la mobilité.
Oui.
La mobilité est un quand on en discute avec l'ensemble des habitants du territoire, est un enjeu capital. Alors bien sûr que la mobilité se vit pas de la même façon à l'est du département qu'à l'ouest, mais c'est vraiment un enjeu de déplacement important. On est en discussion notamment avec la région pour demain que notre territoire soit un bassin reconnu comme bassin de mobilité, et donc avec, je dirais, des moyens et des liaisons que le territoire n'a pas encore. Mais on ne peut pas arriver à prôner, on va dire, un territoire à énergie positive demain si on n'a pas si on n'arrive pas à mettre en place des solutions en matière de déplacement, qui est un des points noirs, malheureusement, pour beaucoup d'habitants du territoire.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé d'aller travailler à la métropole. Et donc, de ce côté-là, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur la partie tiers-lieu. Sur la partie tiers-lieu, développement de tiers-lieu.
Oui, sur la partie tiers-lieu. Oui, alors ça fait partie de ces nouveaux terrains, en fait, je dirais, de développement économique, sachant que derrière les tiers-lieux, mais vous aurez des personnes qui vont,
oui, tout à fait,
que moi, développer et vous préciser en fait ce qu'on entend, mais c'est de nouvelles façons de travailler, des formes de regroupement professionnel. Il faut pouvoir donner aussi des lieux aux personnes pour ne plus travailler chez elles, parce qu'on se rend compte que certaines personnes souhaitent partir de leur ou souhaitent sortir de leur maison, parce que c'est pas toujours évident en
matière
de télétravail, et trouver un lieu à proximité pour aussi pouvoir échanger, parce que il y a du lien qui se fait, du lien économique d'une façon importante à être mis en place. Donc on a à peu près 6-7 tiers-lieux qu'on est en train d'accompagner sur le territoire, avec des thématiques et des orientations différentes, mais c'est aussi de nouveaux formats à expérimenter sur le territoire, et c'est pour ça que on se doit, nous, au niveau du pôle territorial, d'accompagner ces projets d'une façon spécifique et assez prégnante.
Quand on a parlé de contractualisation, c'est-à-dire que vous êtes le relais entre la communauté des communes, enfin il y a les communes, puis la communauté des communes, puis l'État et l'Europe, vous êtes le relais finalement, le maillon qui permet finalement de finaliser les dossiers.
Oui, tout à fait. Alors, quand on se place à l'échelle d'une région ou de l'État, l'État peut pas, on va dire, contractualiser ou la région, et c'est pas ses projets avec chaque communauté de communes, parce que sur la région Nouvelle-Aquitaine, ce serait quasiment impossible. Donc, nous avons des partenaires, en fait, qui souhaitent que les territoires se regroupent, se fédèrent, pour porter des projets de développement commun, c'est-à-dire derrière un projet de territoire, et pour pouvoir engager une contractualisation, c'est-à-dire essayer de pouvoir apporter des moyens sur des projets de développement. C'est ce qu'on appelle là la contractualisation. Donc nous, le pôle territorial, nous portons plusieurs contractualisations. Nous portons un contrat avec la région autour du développement et de transition, voilà, pour 3 ans, de 2023 jusqu'en 2025, ce qui permet de venir abonder un certain nombre de projets et à trouver des fonds supplémentaires pour les projets, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Nous portons une contractualisation avec l'État autour d'un contrat qu'on appelle le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique.
Oui.
Donc ça, c'est plutôt dédié au niveau des acteurs publics, communes et communautés de communes. Nous avons signé un contrat pour la période 2021-2026. Et puis, nous portons un contrat notamment avec l'Europe. Quand le pôle territorial gère les fonds européens, c'est pour notre territoire une enveloppe de plus de 3 200 000 euros hein, qui vont être affectés à notre territoire sur deux fonds, le LEADER et le FEDER, qui vont autant de moyens financiers qui vont venir abonder et soutenir des projets. Voilà. Et puis, autre exemple de contrat que l'on vient juste de signer la semaine dernière avec les présidents des intercommunalités, un contrat avec l'ADEME, un contrat d'objectif territorial qui doit permettre de structurer et d'accompagner les communautés de communes, notamment dans leurs actions en matière de transition énergétique et environnementale. Voilà, donc c'est des exemples en fait de contractualisation. S'il n'y avait pas une structure comme le pôle territorial pour porter une vision stratégique et une complémentarité au niveau des 5 CDC, il serait très très difficile de pouvoir mettre en place ces contractualisations avec les partenaires que je viens de citer.
Tout à fait. Mais malgré que chaque territoire, chaque communauté des communes a sa spécificité, on a ceux qui sont, je dirais, périurbains, puis les autres sont beaucoup plus ruraux.
Exactement. Et c'est tout l'enjeu de ces contrats, c'est que les communautés de communes ont bien sûr leurs propres projets de développement. À nous de trouver les complémentarités. Bien souvent, il y a beaucoup de synergie entre les projets d'une communauté de communes avec la communauté de communes voisine. Donc, il faut pouvoir faire remonter ces complémentarités et ces points qui sont des points de convergence. Mmh. Et derrière ces convergences, c'est là où on peut venir bénéficier de financement. On se rend compte que les dossiers autour de la transition énergétique des bâtiments, oui, autour des mobilités, autour du développement économique, mais également autour de la vie associative ou de la santé, par exemple, oui, ce sont des enjeux de territoire et qui concernent plusieurs parties de notre territoire. Et donc, ce sont ces enjeux-là qu'il faut véritablement défendre auprès des partenaires financiers institutionnels pour pouvoir bénéficier en fait d'accompagnement et tant au niveau de l'ingénierie que de moyens financiers.
Quand on dit l'ADEME, c'est sur la maîtrise de l'énergie, donc on est bien sur à la fois les bâtiments, la mobilité, etc.
Oui, l'exemple de l'ADEME en fait est cet exemple-là où nous sommes le deuxième territoire en Gironde à signer ce type de contrat. Donc ça doit permettre en fait aux communautés de communes notamment de trouver des points de convergence derrière leur stratégie, alors autour de leur plan climat, air, énergie, ce qu'on appelle, oui, les PCAET. PCAET. Et derrière tout ça, ça permet d'avoir des financements, notamment en matière de soutien à l'ingénierie, pour permettre demain à ces acteurs locaux de pouvoir mener à bien les projets qu'ils ont au niveau soit de leur communauté de communes, soit au niveau des communes de leur territoire.
Donc finalement, vous accompagnez les projets des communes.
Exactement, on se doit d'être l'interlocuteur des communes et des communautés de communes dans ces projets-là, dans leur trajectoire. On se rend compte que quand on accompagne notamment les maires, qui sont des fois, et je peux le comprendre, un peu perdus, derrière un projet autour de la mobilisation des financements publics, oui, il y a des possibilités avec l'État, avec la région, avec l'Europe, avec des appels à projets. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. Oui. C'est des fois un peu technique et les équipes du pôle territorial sont là en fait pour accompagner ces acteurs-là à mobiliser le plus possible les financements possibles. C'est un vrai enjeu des territoires en Nouvelle-Aquitaine qui développent beaucoup d'ingénierie pour essayer de capter le plus possible de financements, oui, publics.
Bien sûr.
Nous devons, nous, au niveau du cœur entre deux mers, également répondre présent aux côtés de nos partenaires.
Ça veut dire, c'est important, c'est que pour 1 euro dépensé, vous en recevez 5 de la part des institutions, tant régionales, nationales, européennes.
Oui, exactement. C'est cet effet levier, alors sur lequel on n'insiste pas suffisamment. J'aime toujours à dire que, je prends l'exemple de l'Europe. L'Europe accompagne des projets sur le territoire, que ce soit des projets d'entreprise. Je sais qu'on a soutenu des projets en matière de no-tourisme, oui, des projets bien sûr collectifs, de collectivités, des projets autour de l'itinérance. Sur le dernier programme européen, c'est plus de 60 projets qui ont été accompagnés et nous avons pu mobiliser plus de 2 400 000 euros. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont très factuelles, très concrètes, mais nous devons également nous l'expliquer et le faire savoir, parce que derrière pas mal de projets soutenus, on a pu capter des financements européens. Alors, c'est facile à dire. Après, il y a tout un travail de, d'ingénierie à faire et de trouver les bons interlocuteurs. Mmh. Mais c'est pour ça que les communautés de communes également ont souhaité mutualiser derrière un outil d'ingénierie partagé. C'est pour également être en capacité de mobiliser les financements publics existants pour le compte d'un territoire. Si nous, nous ne le faisons pas, d'autres territoires le feront. Voilà. Mmh. Donc, c'est aussi cette capacité d'un territoire à vouloir prendre en compte son développement et les moyens qui vont avec.
Tout à fait. Donc, ce qui veut dire, c'est que un territoire dynamique s'il a une ingénierie importante.
Oui, exactement. Il faut que les acteurs soient présents à tous les niveaux. Ça nécessite donc un gros travail de complémentarité avec tous les échelons, mais très objectivement, tous les échelons ont du sens. Et même si des fois, quand on est à la place du citoyen, le millefeuille administratif a du mal à être perçu. Ouais. Bon, à nous, en tant qu'élus de notre territoire, de pouvoir véritablement s'affranchir de ça et de pouvoir avoir une certaine efficacité dans les actions que nous menons. Voilà. L'exemple des tiers-lieux dans l'accompagnement que nous faisons en est une des illustrations.
Tout à fait. Alors, la différence entre les programmes LEADER et le FEDER?
Alors, la différence entre les deux programmes, c'est on connaissait le programme LEADER qui était vraiment un programme qui était destiné aux communes, aux parties rurales,
aux
ruraux des territoires, et le programme LEADER, en fait, qui est une déclinaison en fait des fonds européens autour d'un soutien à l'agriculture et au territoire, est venait et viendra encore accompagner notamment les projets autour de l'agriculture, autour de la diversification, autour de la commercialisation, autour de la transformation, mais également autour du tourisme. Voilà, c'était fléché. La nouveauté pour nous et pour les territoires tels que le cœur entre deux mers, c'est que nous allons avoir en gestion des fonds FEDER qui vont plutôt venir soutenir le développement économique, notamment au niveau des petites villes ou des pôles de centralité. Voilà. Donc c'est un enjeu, donc des fonds supplémentaires et donc des possibilités d'accompagnement et d'intervention financière différentes. Voilà. Donc on va être opérationnel pour l'année 2023 jusqu'à l'année 2027. Donc c'est un enjeu également parce que derrière tout ça, des fonds c'est une chose, mais il faut aussi des projets.
Oui, oui, tout à fait.
Et dans un contexte actuel difficile, il faut être en capacité aussi de faire sortir des projets pour pouvoir aussi les faire bénéficier de financement. Voilà. Donc c'est toute une mécanique à avoir, mais voilà, le pôle territorial se doit de relever ce défi de la, je dirais, de la consommation de ces fonds européens, parce que je suis persuadé que comme c'est un territoire qui est toujours un peu a toujours une longueur d'avance par rapport à d'autres territoires, on est souvent en capacité de récupérer en milieu de programme d'autres sommes. Voilà, mais voilà, ça c'est des exemples concrets, je dirais, d'accompagnement d'acteurs. Voilà, donc moi j'invite les acteurs économiques et privés qui ont des projets à se rapprocher des équipes des pôles pour faire le point en fait sur leurs projets et notamment sur leurs interrogations en matière de financement de leurs investissements ou notamment parce que ça va surtout porter sur l'investissement.
Oui, surtout que bon, on a un climat qui est un peu difficile. C'est bon, entre le prix de l'énergie pour certains, c'est 300% d'augmentation s'il n'y a pas un bouclier fiscal qui arrive derrière, notamment tout ce qui est énergie, électricité, et gaz ou pétrole. C'est une inflation qui est quand même assez galopante, et donc ça a tendance à arrêter un peu les projets, quoi.
C'est notre inquiétude, d'ailleurs. Comme on a une vision de l'activité économique et du développement économique du territoire, sur les 5 communautés de communes, on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs économiques n'ont pas retrouvé, bien sûr, le niveau de l'avant-Covid, il faut être clair.
Oui.
Et après une crise sanitaire qui a été très impactante, la crise énergétique est un nouveau coup d'épée dans le dos que les chefs d'entreprise, mais également les collectivités, vont devoir relever. Voilà, donc c'est vrai que c'est très, très inquiétant. Même si le ministre de l'économie ce matin a ouvert un petit peu dans ses annonces l'accompagnement des acteurs économiques, notamment des PME, avec, je dirais, un bouclier plus importants qui viendraient prendre en compte les dépenses énergétiques, c'est pas suffisant. Il faut être clair, c'est loin d'être suffisant par rapport aux réalités que connaissent les acteurs économiques quand ils regardent en fait leur facture d'électricité, de gaz être multipliée par 2, par 3, par 4, voire par 5, voire plus. Voilà. Et c'est vrai que dans une dynamique économique de territoire, on est quand même, nous, très, très inquiets, je dirais, sur le devenir d'un certain nombre d'acteurs économiques, mais également, je dirais, associatifs et partenaires du territoire, sur l'année 2023.
Quoi. Oui, voilà. L'année 2023.
Ouais. On ne peut pas faire grand-chose, mais il faut quand même être très très attentif. Et c'est pour ça que, à l'heure où on demande aux acteurs de se développer, de se spécialiser, d'innover, voilà, on parle beaucoup du numérique. Je comprends bien moi les difficultés des acteurs économiques qui le voudraient, mais qui n'ont plus de marge de manœuvre. Voilà, et c'est pour ça leur enjeu va être de passer l'année. Voilà, donc on est également sur une situation de très court terme qui nous questionne beaucoup, parce que si demain nous avons des commerces qui ferment, nous avons des entreprises malheureusement qui réduisent leur activité, c'est difficile pour une dynamique de territoire. Voilà.
Tout à fait.
Et comme on souhaite quand même avoir une vie économique, comme on a une vie associative sur un territoire très actif, c'est quand même des enjeux hyper stratégique pour le développement du cœur entre deux mers.
Tout à fait. Bon, bah écoutez, il faut souhaiter que l'année 2023 soit le moins impactante sur finalement la dynamique économique de l'ensemble du territoire. Bon, bah merci Alain Monger. On va peut-être faire une pause musicale avec La Fille du Sud de Vianney.
On m'a dit que c'était là que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas, et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude qu'on me remballe, mais comme t'étais du sud, j'ai pris un mistral. Moi je voulais n'importe quoi, tant que c'était avec toi. Même devenir ami, même conduire dans Paris. Faut pas faire des études pour être au courant que comme t'étais du sud, tu prenais ton temps. La fille du sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais là pour partir. La fille du sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Puis on est devenu copains, et copains c'est moins bien. Mais s'engueuler à deux, bah c'est mieux qu'à un. Avant toi c'était dur et froid comme la nuit. Mais comme t'étais du sud, t'as réchauffé ma vie. Sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais là pour partir. La fille du sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Deux anneaux plus tard, dans du papier d'argent, j'ai rangé notre histoire, ce mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent, comme tu venais du sud, était-ce un accident? La la fille du sud. La fille du sud.
Alors maintenant, je reçois Isabelle Delbure, qui est responsable du service Espace Info Entreprendre du Cœur Entre Deux Mers, sur l'activité d'accompagnement à la création de tiers-lieux. On en a parlé tout à l'heure avec Alain Monger, notamment deux tiers-lieux, une sur la communauté commune rurale de l'Entre-deux-Mers et une autre ma causerie et la manivelle au vent. Bonjour Isabelle Delbure.
Bonjour.
Alors, vous êtes en charge d'accompagner finalement ces tiers-lieux, c'est ça?
Alors, effectivement, le service Espace Info Entreprendre du Cœur Entre Deux Mers, alors, accompagne de façon un petit peu plus large tout ce qui est développement économique. Donc, on va accompagner aussi bien les créateurs d'entreprises privées, les TPE principalement, qu'elles soient artisanales, commerciales, de profession libérale, et puis également les entreprises existantes. Voilà, donc il y a toute une partie de notre activité qui est liée à l'accompagnement des entreprises, et puis il y a une partie effectivement qui accompagne des projets un petit peu plus structurants, qui sont généralement en lien avec les communes et des porteurs de projets privés, des collectifs en règle générale, et effectivement les tiers-lieux en font partie.
Parce que bon, finalement,
accompagner effectivement deux tiers-lieux dont vous parlez.
Oui.
Alors, je fais une petite précision parce que c'est pas ma causerie, c'est ma cocasserie.
Ah, mon casse, oui.
Et puis,
les cocasses.
Un tiers-lieu, la manivelle au vent, pardon.
D'accord. Alors, le tiers-lieu, c'est. J'ai reçu la vice-présidente du conseil régional il y a trois semaines par là. On est à 550 tiers-lieux sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, pourquoi?
Alors, effectivement, il y a eu une volonté des régions et, j'allais dire, on peut dire plus particulièrement de la région Nouvelle-Aquitaine, de développer des tiers-lieux. Alors, peut-être redéfinir un petit peu pour commencer ce que c'est qu'un tiers-lieu, parce que finalement, il n'y a pas une définition très très précise, parce que pour ainsi dire, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut dedans.
Oui.
Un tiers-lieu, c'est avant tout un espace dans lequel on va avoir un lien entre la dimension travail professionnel et puis une dimension un petit peu plus culturelle. C'est un lieu qui se situe, si vous voulez, entre le chez-soi et la sphère professionnelle. Donc, c'est une nouvelle façon d'aborder le travail et ces structures sont, en règle générale, un petit peu hybrides parce qu'on va y voir se côtoyer des professionnels, des entreprises, des citoyens, et puis on va associer à la partie professionnelle une partie un petit peu plus culturelle, événementielle.
D'accord. Ça veut dire que à l'heure où on a eu donc la crise sanitaire et le Covid, le télétravail, c'était quelque chose qu'on avait très peu développé. Ça s'est développé de manière très conséquente. Donc on parlait tout à l'heure de mobilité, le fait finalement de pouvoir aller dans un tiers-lieu et non pas aller sur la métropole bordelaise, sur le lieu de travail, on puisse travailler en télétravail finalement, c'est ce qui permet finalement aux personnes de pouvoir travailler proche de chez eux.
C'est vrai que il y a quelques années, quand les tiers-lieux ont commencé à se développer, c'était essentiellement cette notion de coworking, d'espace de travail partagé qu'on y trouvait.
Oui.
Et avec la crise sanitaire, très clairement, le besoin s'est accru en matière d'espace de travail pour éviter, comme on en parlait tout à l'heure, pour éviter de rester chez soi, cloîtré, pour ainsi dire. Donc, ça s'est pas mal développé ces dernières années. Mais ce n'est pas que ça, un tiers-lieu.
Oui, c'est-à-dire que quand vous dites que vous accompagnez tiers-lieu, la mise en place tiers-lieu, c'est à la demande d'une association, d'une collectivité.
Alors, la porte d'entrée, elle peut aussi bien être une collectivité, qui a le souhait de dynamiser la commune et qui dispose de moyens qu'elle souhaiterait mettre à disposition pour justement accueillir soit un espace partagé, soit davantage, ou un tiers-lieu. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de tiers-lieu tout de suite, hein, c'est un terme que tout le monde n'emploie pas au quotidien. Mais ça peut être également un collectif d'acteurs économiques ou un collectif de citoyens qui souhaitent développer des activités en commun. L'idée, c'est que idéalement, on arrive à mettre en lien des ressources communales et des bonnes volontés de citoyens ou de professionnels. Et à partir de là, on peut commencer à construire un projet, à écrire les lignes d'un projet. Et notre travail au niveau du pôle territorial, c'est vraiment de coordonner ce travail de réflexion commune et pour utiliser un terme très à la mode, de co-construction.
Oui, c'est ça. Alors, quand vous dites co-construction, donc c'est on construit ça à plusieurs. Ça peut être également un lieu de réunion, etc. Et puis d'animation. C'est vous qui vous occupez justement des montages financiers, là.
Oui, on va contribuer à mener ces réflexions. Alors, c'est pas le pôle territorial qui donne les lignes directrices.
Oui.
Disons que nous, on met un petit peu en musique. On écrit un peu les partitions. Par contre, si on prend l'exemple des deux tiers-lieux que l'on a accompagné, alors très très localement, un sur la commune de Targon, qui est donc la manivelle au vent. Au démarrage, c'est la rencontre avec un collectif d'artisans d'art qui souhaitait sortir de chez eux et mutualiser un lieu pour y implanter leurs activités. Et puis, au-delà de leurs propres activités, il y avait le souhait de faire rayonner l'artisanat d'art sur un territoire. Il s'est trouvé qu'il y avait un projet communal d'utiliser un bâtiment pour développer une activité économique, et la mise en lien s'est faite, et à partir de là, et voilà, on est arrivé à ce que je vous disais tout à l'heure, on a commencé à réfléchir ensemble et à co-construire.
D'accord. Et là, derrière, vous avez trouvé des financements région, Europe?
Voilà. Alors, on a pu mettre en œuvre des financements, solliciter des financements d'une part pour la commune qui, elle, a toute la partie travaux, et d'autre part pour le collectif qui, lui, a un certain nombre de frais de fonctionnement, notamment, et idéalement, hein, quand c'est ce genre de projet, idéalement, il y a un poste d'animation qui est créé, qui représente un coût important pour une association qui naît et qui n'a pas encore de ressources. Donc, pour les premières années de vie, c'est bien qu'on ait des subventions. Donc, les subventions pour les communes, elles peuvent venir de l'État. On parlait des fonds européens tout à l'heure avec Alain Monger.
Oui.
L'Europe, l'État.
La région.
Le département, la région Nouvelle-Aquitaine. Parfois, les communautés de communes aussi. Et puis, côté plus associatif, donc notamment pour le financement du poste d'animation, on peut avoir des subventions. Enfin, il y a eu des subventions de la région pour cela.
D'accord, très bien. Ouais, merci Isabelle Delbure, qui est responsable du service Espace Info Entreprendre du Cantre de Mer, qui nous a présenté un petit peu les missions de ce service et surtout la création des deux tiers-lieux sur la communauté rurale de l'Entre de Mer. Une, la Manivelle au Vent, donc, qui est plutôt spécialisée sur le côté artistique, et puis la deuxième dont on va parler juste après. Merci Isabelle.
Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.
Merci. Alors nous allons écouter maintenant les Franchines, Demain dès l'aube.
Vois-tu, je sais que tu m'attends.
entendre aucun bruit. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe.
Alors, nous revenons sur la présentation du pôle territorial Cœur entre deux mers, donc qui rassemble quand même 5 communautés des communes, 90 communes et plus de 100 000 habitants. Et nous sommes avec Anne-Isabelle Henry, animatrice du tiers-lieu Ma Causerie d'Albret. Bonjour.
Bonjour. Je me permets de vous reprendre tout de suite. Ça n'est pas ma causerie, c'est ma cocasserie.
Mais ce que je dis est ma cocasserie. Ouais, c'est cocasse, hein.
Oui, c'est très cocasse, mais quand même c'est sérieux, hein, non?
Bon, alors, cette cocasserie, alors, c'est où, juste?
Alors, c'est situé actuellement sur 4 petites communes rurales de l'Entre-deux-Mers qui se touchent. Il s'agit de Castelmoron-d'Albret, la plus petite commune de France en taille.
Oui.
Rimont, Caumont et Saint-Martin-du-Puy.
En effet, c'est vraiment des petites communes rurales. Des petites communes rurales. Alors là, qu'est-ce que vous faites dans ce tiers-lieu, puisque vous êtes animatrice du tiers-lieu, là?
Oui, c'est ça. Alors effectivement, tiers-lieu, c'est un mot qui n'est pas toujours bien compris quand on est en contact directement avec les gens. Moi, je me contente de dire qu'on est une association au service des gens et du territoire. C'est-à-dire qu'on est là essentiellement pour créer du lien, puisque pour le moment, on est quand même un tiers-lieu sans lieu, puisque nos lieux sont en cours de rénovation. Donc nous n'avons pas encore d'espace de travail partagé, nous n'avons pas le bâtiment qui doit accueillir les artisans, nous n'avons pas la maison du pain, toutes ces choses que nous sommes en train de lancer, sur lesquelles nous travaillons de concert avec les mairies et avec l'aide ô combien précieuse du pôle territorial,
oui,
qui nous a accompagnés tout au long de nos actions. Donc pour le moment, nous sommes un tiers lieu sans lieu, donc nous créons du lien avec les gens, c'est-à-dire que on se réunit là où on nous accueille. Nous avons des mairies très aidantes. Toutes les salles des fêtes, les salles du conseil, tout est toujours à notre disposition, autant qu'on le veut. Et donc, nous créons des réunions régulières avec des sujets différents. Nous avons la convivialité, l'économie, qui est un pan important chez nous, la programmation artistique et culturelle, un projet mémoriel et une idée de festival qui a germé. On en a encore d'autres, mais pour l'instant, j'en parle pas parce que c'est plus que ce que
c'est à l'état de projet.
Oui. Enfin, non, tout ce que je vous ai dit là, on travaille déjà ensemble.
Oui, oui.
On fait de nombreuses actions sur la convivialité. On a un cercle économique qui travaille déjà. Nous sommes toujours entre 15 et 25 à nous réunir une fois par mois. Des TPE, des porteurs de projets, même des retraités, tous ceux qui ont un intérêt pour l'économie de leur territoire sont bienvenus, et on est un cercle très inclusif et très bienveillant, et je pense qu'on a une action vraiment directe auprès des chefs de petites entreprises, et peut-être demain de moyennes entreprises.
Alors, vous parlez de festival, c'est quoi ce festival?
Alors, c'est quoi ce festival? Alors, ce festival, c'est une idée qui avait germé dans mon cerveau il y a quelques temps, et que j'ai lâché lors d'une réunion, et j'ai eu la grande joie de voir que les habitants s'en sont emparés avec beaucoup d'enthousiasme. Et l'idée, c'est d'utiliser un lieu que nous avons, qui s'appelle les falaises d'escalade à Rimont.
Oui.
Ce sont de vraies falaises d'escalade, hein, qui sont homologuées, qui vont être remises en service très rapidement. Elles sont situées sur deux clairières, une première petite et une deuxième immense. C'est un lieu magnifique où un parking est en cours de réalisation. C'est un lieu qui va être électrifié et où donc on peut organiser de très belles manifestations en toute sécurité dans un lieu magnifique. Et là, l'idée, eh bien, c'est sur un week-end, de faire un festival de street art, tout ce qui est lié à l'art de la peinture, du graffiti, de l'occupation de l'espace public en ville, mais à la campagne. Donc, c'est un petit peu un défi. Je peux pas tout vous dire, mais
oui, bien sûr.
On a un artiste quand même bien en vue qui serait intéressé pour chapeauter cette manifestation, parce que l'idée chez nous, c'est toujours d'être inclusif. Donc, on voudrait un professionnel averti et puis des jeunes et qu'ils puissent bénéficier des conseils de service. Il n'y aura pas que ça, il y aura de la musique, évidemment, il y aura de la danse, il y aura donc du hip-hop, du breakdance, mais on voudrait aussi un bal musette, toujours pour mixer les populations, les cultures, les époques, et voilà.
Oui, parce que là, on est dans l'intergénérationnel.
Ah, bah évidemment. Sinon, ça sert à rien.
Bien sûr. Parce qu'en plus, vous avez une population qui est quand même assez vieillissante, non, sur le secteur.
Excusez-moi, je vous ai pas entendu.
Vous avez une population qui est assez vieillissante sur le secteur, non?
Oui, mais c'est très mixé, en fait. Hein. Il y a des jeunes, il faut juste aller les chercher.
Oui, voilà.
Ils sont discrets, les jeunes.
Oui. Et alors, justement, par rapport à ce tiers-lieu, alors c'est cocasse, hein, c'est le cas de dire, la cocasserie. Pour l'instant, vous êtes itinérant.
On est itinérant. J'ai quand même un petit bureau, moi, fixe, hein, qui m'est prêté très gentiment par la mairie de Castelmoron-d'Albret.
Plus petit village de
France. Les réunions sont un petit peu itinérantes, mais ça, c'est pas vraiment... Ouais. L'important, c'est l'humain. Tant qu'on a le lien, tant qu'on a des gens qui sont enthousiastes à l'idée de se retrouver et de travailler ensemble sur des projets divers et variés, j'ai envie de dire, peu importe le lieu, ça sera encore mieux et confortable quand on l'aura, mais on travaille sans ça et on avance.
Tout à fait. Bon, mais voilà, on a fait un peu le point sur finalement ce tiers-lieu qui est implanté sur plusieurs communes, Caumont, Rimont, Castelmoron-d'Albret, Saint-Martin-du-Puy, donc qui sont vraiment très rurales, mais qui essaient de développer une certaine dynamique à travers ce tiers-lieu et Anne-Isabelle Henry en tant qu'animatrice du tiers-lieu.
Oui, pour terminer, juste je voudrais vous dire qu'on va quand même avoir un espace de coworking, c'est-à-dire actuellement un hangar qui va être vraiment réhabilité en un espace de coworking avec une salle de réunion, avec des bureaux, avec points de vente où on pourra accueillir des infirmières, des kinés, enfin que sais-je. Donc ça, c'est quand même un point très important.
Oui.
À Castelmoron-d'Albret, on va avoir un ancien gîte communal qui est entièrement réhabilité pour accueillir de 3 à 6 artisans d'art ou artistes. Donc vraiment, ce sont des actions extrêmement concrètes.
Tout à fait. Un
bâtiment qui est entièrement réno avec un ancien four à pain à Saint-Martin-du-Puy, où on va accueillir idéalement un paysan boulanger qui va cultiver son blé et faire son pain, et qui aura une véritable mission d'acculturation autour de l'histoire du pain, du bon pain, des céréales anciennes, auprès des écoles, enfin bref, vous avez compris que
tous les
projets sont possibles, mais en tout cas c'est très concret, très sérieux et très vaste.
Très bien. Bon, donc on voit que c'est en pleine dynamique, petite commune rurale au cœur de l'entre-deux-mers qui essaie finalement de créer du lien intergénérationnel et puis finalement développement économique.
Mais c'est exactement ça, c'est un beau résumé.
Très bien, merci Anne-Isabelle Henry. Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève. Nous avons fait une émission spéciale sur le pôle territorial cœur entre-deux-mers avec Alain Monger, son président. Et puis nous avons Isabelle Delbure qui est responsable du service Espace Info Entreprendre du cœur entre-deux-mers et qui accompagne justement la création de 2 tiers-lieux, une sur la communauté rurale de l'entre-deux-mers à Targon et une autre sur ma cocasserie. Et donc c'était l'autre, la Manivelle au vin, et Anne-Isabelle Henry qui est l'animatrice de tiers-lieu de ma cocasserie d'Albret implantée donc sur les communes de Caumont, Rimont, Castelmoron-d'Albret et Saint-Martin-du-Buis. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Dans tes yeux, je vois le monde autrement. Dans tes yeux, et... va. Tout mon amour en grand dans tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas.